Aujourd'hui, on va terminer le parcours du livre, l'épître aux Colossiens. Et au lieu de lire tout le chapitre, on va simplement aller dedans. Mais je voudrais commencer à la fin du livre. Donc, Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, nous allons lire les versets 10 et 14. Il y a quelques détails que je voudrais voir, ce sont des détails importants. Mais après, on va revenir au début du chapitre pour voir la suite de ce qui concerne notre vie quotidienne. Colossiens chapitre 4, versets 10 et 14, nous lisons « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Okay. » Et puis, verset 14, « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. » Donc, je voudrais simplement relever que dans ces deux versets, on a quelques grands hommes de la foi. Ça ne paraît pas tout de suite comme ça, mais premièrement, on a mentionné Barnabas ou Barnabas. On prononce le S ou pas? Si. Barnabas, si. D'accord. Eh bien, Barnabas est celui qui a récupéré Paul à l'époque, qui s'appelait Saul. Hein? Et si Barnabas n'avait pas pris sous ses ailes Saul, qui est devenu Paul, eh bien, il nous manquera la moitié du Nouveau Testament et la grande partie des églises qui étaient formées dans cette première partie du christianisme. Donc, Barnabas. Et puis, Marc, qu'on appelle Marc, mais Jean-Marc, c'est son nom, qui a été aussi récupéré par son cousin Barnabas et duquel on a l'évangile selon Marc, selon Jean-Marc. Et il a mentionné aussi Luc, qui a écrit, bien sûr, l'évangile selon Luc, et les actes des apôtres. Donc, dans ces deux versets, on a des personnes, des auteurs que Dieu a utilisés dans l'inspiration pour plus que la moitié du Nouveau Testament, mentionné dans cette petite épître, dans ces deux versets. Donc, il fallait le dire, n'est-ce pas? Après, on voudrait voir les versets 13, 15, et je vais lire aussi chapitre 2, verset 1. Donc, on va lire chapitre 2, verset 1. Après, on va lire chapitre 4, verset 13 et 15. Je veux, en effet, donc, Colossiens chapitre 2, verset 1, je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, donc vous à Colosse, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Après, au verset 13 et 15, chapitre 4, verset 13. « Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. » Et verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Donc, dans ces versets, on a vu que Paul priait pour l'église de Laodicée. C'était une des premières églises qui était établie. Donc, c'est une église qui était établie soit par l'église de Colosse, soit par l'église d'Éphèse, on ne sait pas exactement. Mais ce n'est pas l'église qui a été établie par les apôtres, mais par les convertis. Les convertis sont allés dans ces villes, enfin, la ville de Colosse, et ils ont évangélisé et démarré l'église de Colosse, que personne là avait rencontré Paul. Ou peut-être l'église d'Éphèse, où Paul avait travaillé 3 ans, mais ils ont envoyé les évangélistes à Laodicée, et ils ont évangélisé cette ville, et ils ont démarré une église dans cette ville. En tout cas, c'est une église, on va dire, de deuxième génération. établi par les convertis de la première génération, mais toujours au même époque que Paul, d'accord? C'est toujours dans cette période-là. Et donc, ça, c'était dans les années 55, donc 20 ans après la résurrection du Seigneur Jésus, dans les années 55, que Paul était à Éphèse, 3 ans autour de l'année 55. Et donc, 40 ans plus tard, cette église à Laodicée était devenue pourrie. Peut-être 30 ans après qu'il a écrit la lettre aux Colossiens, cette église est devenue tiède. OK? Donc, ce n'était pas un bon témoignage. Vous savez bien, on peut le voir dans Apocalypse chapitre 3. Donc, c'est toutes les églises ont leurs difficultés, sauf celui de Philadelphie qui marchait bien. Mais on lit dans Apocalypse chapitre 3, verset 15, à l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froide ni bouillant. Puisses-tu être froide ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froide ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Eh bien, Paul qui priait à l'époque pour cette église, et maintenant le Seigneur Jésus qui ne veut rien avoir avec ce groupe. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi, donc du Seigneur Jésus, de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche dans les vraies richesses et des vêtements blanches afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et là, c'est le plus triste parce que quand vous suivez bien l'image, Jésus est à la porte de l'église et il frappe à la porte de l'église et il dit, ouvre-moi! Parce que c'est une église qui s'est déviée. OK? Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est triste. Et on voit aussi dans Colossiens chapitre 4, dans le verset 17, Colossiens chapitre 4 et le verset 17, « Et dites à Archippe, donc Archippe est censé être le pasteur de l'église de Laodicée. » Donc c'est ça que l'église catholique, la tradition dit, c'était le premier évêque de Laodicée. Bon, pour nous, ça veut dire pasteur, n'est-ce pas? Ça, c'est notre vocabulaire. Et donc, en principe, Archippe était de l'église de Colosse et il était envoyé comme être pasteur de l'église de Laodicée. Et donc, dans le verset 17, nous lisons, « Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Et vous pouvez imaginer, au moins moi je l'imagine, en voyant que cette église, une trentaine d'années plus tard, n'a plus de croyants dedans, que Archippe n'a pas bien rempli son ministère. C'est triste. Donc, pour dire premièrement que nous devons prier pour notre Église, que nous ne refroidissons pas, que nous ne dévions pas, que nous restons bâtis et construits sur la parole de Dieu. Mais je me suis posé la question concernant Archippe, bien remplir son ministère. Donc, il fallait qu'il maintienne la foi, qu'il reste dans la vérité, qu'il soit soumis à Dieu par la parole, qu'il soit ferme, pas, comment dire, raide, pas flexible dans un sens humain, mais quand même fixé sur les vérités, comme on voit tout autour de nous, les gens sont en train de se plier en, comment dire, pretzel, des pretzels, pour être en accord avec tout le monde. Mais non, il faut être en accord avec la parole de Dieu, parce que c'est l'autorité de Dieu. Et c'est à lui que nous devons nous rendre, devons rendre compte à Dieu. Pas aux gens de toute la France et tout le monde, la planète entière. Aussi la pureté dans sa vie et le détachement ou désintéressement vis-à-vis de l'argent. Vous avez vu quand j'ai lu ça. Nous nous sommes enrichis, c'est devenu une église américaine qui est toute riche. Il y a plein d'églises riches là-bas. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment des chrétiens, qui veulent être des chrétiens tous les jours. OK? Donc nous, on veut être des chrétiens de tous les jours. Qu'on soit riche ou pauvre, on veut être des chrétiens de tous les jours. Et donc, concernant Archip aussi, je me suis dit, plus tard, nous allons avoir un pasteur. Eh bien, il y a des qualifications pour les pasteurs. On ne peut pas mettre n'importe qui pour être le pasteur. Parce que cette personne va influencer la vie de chacun. OK? Donc, voilà, il faut que nous qui voulons être pasteurs, nous cultivons dans notre vie les choses qui sont dites, que voilà, si vous allez choisir un pasteur, voilà les qualifications. Il faut cultiver les qualifications dans notre vie pour devenir plus tard un pasteur. Et quand on est devenu un pasteur, il faut maintenir les qualifications. Parce que le pasteur est pasteur parce que l'Église l'a mis à la place du pasteur. Mais quand le pasteur n'est plus qualifié, quand il est devenu avare pour tout l'argent qu'il pourrait avoir, par exemple, eh bien, il faut placer quelqu'un d'autre en tant que pasteur parce qu'il va faire tout le monde dévier dans le sens de Laodicée. Vous voyez? Donc, on va faire attention, n'est-ce pas? Et on voudrait se préparer pour le ministère. Alors, aussi, on va regarder dans Colossiens chapitre 4 et verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, à Colosse, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera de Laodicée. Donc il y a toute une pensée, bah, certainement il y a une lettre que Paul a écrite qui était adressée aux Laodicéens et qui était perdue. Et certainement dans les fausses écrites, eh bien, il devrait avoir certainement une église qui, une lettre écrite par une fausse lettre écrite par quelqu'un qui dit voilà la lettre aux Laodicéens. Mais non. Ça dit que voilà, dans l'église d'origine, les lettres des apôtres étaient transmises à toutes les autres églises. Donc, cette lettre de Colosse, écrite aux Colosses par Paul, était écrit par Paul, c'était envoyé à Colosse, et quelqu'un de l'église de Colosse devait amener ça à Laodicée, et par la suite, il devait amener ça dans une autre ville, et puis chaque église allait recevoir, comme nous aujourd'hui, pour lire la même lettre, parce que c'était transmis à travers les siècles. Et il y avait une autre lettre qui était certainement l'église, la lettre aux Éphésiens, qui était déjà lue par l'église d'Éphésiens, qui était transmise à l'église, donc, par, directement ou par d'autres églises, par arriver à l'église de Laodicée. Et cette lettre devait être transmise de Laodicée aux Colossiens, pour qu'ils puissent le lire comme nous voulons le lire dans notre Bible, parce que dans le temps, toutes les lettres étaient indépendantes. Mais ce qui se passait, c'est que quand la lettre passait chez telle église, on faisait une copie. Et après, une autre lettre passe et on fait une copie. Et on faisait des copies, des copies, des copies de toutes les lettres et on les regroupait ensemble pour avoir une petite bibliothèque de l'enseignement des apôtres. C'est comme cela que, par la suite, ils étaient regroupés ensemble et transmis jusqu'à nous dans les langues d'origine. OK? C'était comme ça que ça se passait. Et c'est tout ce que ce verset veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une lettre qui est perdue. OK? Donc, on va revenir au début du chapitre. En fait, c'est le verset 2, parce que j'ai déjà parlé du verset 1 la semaine dernière. Et simplement pour reviser ce qu'on a déjà fait, on part dans les messages précédents, on part de, donc, par exemple, dans le verset 14, 3-14, il faut se revêtir de l'amour. L'amour, c'est la pratique du bien, n'est-ce pas? On a parlé de ça. On a parlé de la parole de Dieu, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Ok, donc on a parlé de la parole de Dieu. Et on a dit au chapitre 3, verset 17, « En quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, tout est pour Jésus. Ok? Et de là, on s'est lancé dans un discours concernant la famille. On a dit que tout ce que nous faisons dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre travail, et maintenant, aujourd'hui, dans notre vie spirituelle, doit être fait pour le Seigneur Jésus. Donc, dans le chapitre 4, verset 2, nous lisons, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, Dieu veut que nous prions. Nous prions continuellement, que nos prières soient persévérantes, que nous soyons vigilants et vivants dans la prière. Alors, je me souviens d'une dame, quand je faisais la porte-à-porte en Normandie une fois, c'est une dame musulmane. Et elle dit, oh, mais moi, je prie 5 fois par jour. Donc, vous imaginez, elle met une tapis par terre, puis elle se met là, dans la bonne direction, et 5 fois par jour. J'ai dit, oui, mais moi, je prie continuellement. Oh, comment ça se peut? Peut-être que j'avais le tapis dans mon sac à dos, je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais c'était impossible pour elle, parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprenait pas que la prière, c'est notre communion, notre conversation qu'on a avec Dieu. Et il a dit, avec les actions de grâce, que nous soyons reconnaissants, n'est-ce pas, pour tout ce que Dieu fait et que nous ne fait pas, mais que Dieu est actif dans nos vies. Et donc, merci Seigneur. Après, il dit dans le verset 3 et 4, priez en même temps pour nous. Mais qui est-ce nous? Nous, c'est Paul et son équipe, là, en prison, là, à Rome. Donc, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, il faut prier, déjà à votre conversation avec Dieu quotidienne, mais à penser à votre pasteur, à la femme du pasteur, aux évangélistes, aux missionnaires. Donc, merci Anne-Lise d'avoir communiqué à propos de Arlette et le ministère aux Philippines. Donc, il faut prier pour ceux qui sont dans le ministère, pour qu'ils focalisent sur le ministère. Et en particulier, le ministère concerne la parole. Donc, on a la sagesse de parler comme il faut parler, que les portes soient ouvertes et qu'on parle, on utilise les paroles à propos. Quelqu'un nous pose une question et on parle d'un autre sujet, ça ne va pas. Donc, on parle. Parle pour éclairer comme il le faut, avec les mots appropriés. Après, donc, nous sommes dans le verset 5. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Okay? Donc, dans notre vie spirituelle, il y a la prière pour moi, pour ma femme, etc. Il y a la prière pour ceux qui sont dans le ministère que nous connaissons. Et puis aussi, il dit de nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Vous savez, vous êtes chrétien en tout moment. Chrétien à 100%. Ce n'est pas que voilà, vous êtes chrétien dans la prière et vous êtes du diable dans le travail. Ça ne va pas. Hein? On est intégralement chrétien, constamment, toujours. Et donc, ça veut dire qu'on est toujours ambassadeur pour Christ. Je suis chrétien au travail, puis je prends un petit quelque chose du travail, je mets ça dans ma poche et je retourne à la maison. Enfin, j'ai volé quelque chose. Ça, c'est pas un très bon ambassadeur. Hein? N'est-ce pas? Les choses qui appartiennent au patron, appartiennent au patron. On les laisse au travail. Vous voyez? On est constamment. Donc, il dit que voilà, vous avez du temps. Le temps vous est prêté. Comme on dit dans l'évangélisation, ben, vous ne savez pas combien de temps vous allez vivre. Eh bien, nous aussi, on ne sait pas combien de temps nous allons vivre. Le temps nous est prêté. Il dit, rachetez le temps. Utilisez bien le temps que Dieu nous a donné. Parce que notre vie fait partie de notre vie spirituelle. Notre vie de tous les jours, quotidienne. Ça fait partie de notre vie spirituelle. C'est notre vie spirituelle, mais notre vie spirituelle publique, vécue devant les gens. Et donc, intéressant, il a parlé de lui-même. Priez pour moi pour que je puisse avoir la porte ouverte pour parler de Jésus. Et puis il dit aussi, priez pour vous-même que vous soyez prêts à évangéliser. Soyez prêts toujours à partager l'évangile. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Non, attention, quelqu'un va dire, ah, mais c'est le sel, on va mettre ça là dans le blessure, ça va piquer, mais ça va faire mal. Non, c'est, il dit bien, le sel, ça représente l'assaisonnement dans cette phrase. C'est-à-dire, ça rehausse le goût. Hein? Vous savez, vous avez fait la soupe, et puis, un peu fade, un peu de sel. Ah, c'est bien. Hein? C'est comme ça qu'il veut dire ici. Grâce et sel. Donc, soyez prêts à partager l'évangile. Préparez-vous. Donc, les choses qu'on a fait hier, et puis les petits messages imprimés là-bas. Donc, il y a votre présentation, la façon que vous utilisez pour évangéliser. Mais, il dit, dans le verset 6, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Donc, comment vous allez répondre si vous n'avez pas écouté sa question? Ça veut dire que vous allez être à l'écoute et que votre présentation va être adaptée à l'individu selon ses besoins. OK? Donc, une réponse individualisée. C'est important de respecter le fait que vous parlez à une vraie personne. Si c'était simplement d'éviter les cinq versets, eh bien, vous aurez pu, tiens, en prendre ce papier, lis ça tout seul et hey, laissez-moi tranquille. Non, on va partager les versets qui sont vivants par le Saint-Esprit afin que la personne soit touchée dans son cœur et on va répondre à leurs questions. Maintenant, on va voir que dans notre vie spirituelle, il y a la relation avec d'autres chrétiens. Ça, c'est les versets 7, 8, 9 et 10. Tichique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Il vous informera de tout ce qui se passe ici. Archippe, mon compagnon de captivité vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel je vous ai donné des ordres. Recevez-le, accueillez-le. OK, donc vous allez vous souvenir que Paul s'était fâché contre Marc plus tôt dans le ministère. Et donc il ne voulait rien avoir avec Marc. Et maintenant, il a trouvé que, tiens, il a écrit l'évangile de Marc. J'en ai besoin de lui. OK? Mais le point ici, c'est que on a des frères et sœurs en Christ. Et dans ces versets-là, on a vu que les frères sont bien-aimés, que les frères sont fidèles et les frères sont réconfortants. Donc, bien-aimés dans le sens que nous devons avoir une attitude de bienfaisance réciproque les uns envers les autres. Nous devons être fidèles, donc on peut compter les uns sur les autres. Hein? Si c'est vous qui va faire la prédication dans les semaines à venir, vous dormez tout le dimanche matin et puis tout le monde à l'église, qui est-ce qui fait la prédication ce matin? voyez, on va compter les uns sur les autres dans toutes les choses. Et puis, réconfortant. Donc, le réconfort, en fait, c'est le ministère du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit va agir à travers nous. Donc, il va nous utiliser pour réconforter les uns et les autres. Donc, ça, c'est les relations les uns avec les autres. Et puis, on voit aussi dans le verset 10, cette idée de compagnon de service. Dans le verset 11, on lit Jésus, donc Jésus appelé Justus, c'est une autre personne nommée Jésus, c'était l'ancien nom de Josué, vous salue aussi, ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Et puis, c'est quel verset, j'ai oublié, donc, combattant. J'ai perdu l'autre verset, j'ai oublié de marquer le verset. Peut-être on va le retrouver. De toute façon, on est partenaire en Christ. On est là, une communauté de chrétiens, on est partenaire pour l'œuvre de Dieu, on est compagnon de service ou de captivité, on est partenaire, on collabore dans le royaume de Dieu, donc on travaille ensemble, et j'ai perdu le verset, mais on est combattant, serviteur spirituel, donc pour la prière, pour la stabilité, pour la maturité, et dans les questions d'être disponible pour faire la volonté de Dieu. Ah oui, c'est le verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, donc c'est mature, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu, donc disposés à plaire à Dieu. Donc ça c'est donc en ce qui concerne notre relation avec les autres chrétiens. D'un côté on est frères et sœurs et d'autre côté on est partenaires. Okay? Donc je pense le verset qui vraiment globalise tous ces messages divers, c'est le verset 17, chapitre 3. Encore, je vous le lis, comme je le lis tout à l'heure. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc, c'est ça, notre vie. Des chrétiens.